Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann et je suis heureux de vous retrouver. Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Le livre de l'Exode tient une place très importante dans l'Ancien Testament et il nous aide à mieux comprendre l'œuvre de Jésus-Christ. Pendant cette 9e série d'études consacrée à ce livre, nous abordons les chapitres 32 à 34. Romuald nous rejoint pour nous faire part de ses réflexions, mais pour commencer, il va nous rappeler l'histoire racontée dans les 30 premiers chapitres du livre de l'Exode. Romuald, bonjour.
Merci Yann, et bonjour à tous. Au début du livre de l'Exode, le peuple de Dieu vit dans l'esclavage en Égypte. Cependant, le Dieu unique, le Tout-Puissant, intervient pour libérer ses gens, et par l'intermédiaire de Moïse, il les conduit à travers le désert, vers le pays promis de Canaan. Nous en sommes arrivés au moment où le peuple de Dieu se trouve au pied du mont Sinaï. Moïse, quant à lui, est monté sur la montagne pour rencontrer Dieu et recevoir les 10 commandements. Mais lorsque Moïse est sur la montagne, le peuple de Dieu demande à Aaron de leur fabriquer une idole, un veau en or. Puis le peuple rend un culte à cette idole, et il plonge dans la débauche en suivant les mœurs impures des peuples environnants. De ce fait, Dieu, le seul vrai Dieu, leur exprime sa juste colère, en affirmant son intention de les châtier. Toutefois, Moïse prie en faveur du peuple. Aujourd'hui, nous apprendrons ce qui s'est passé lorsque Moïse descend de la montagne pour rejoindre le peuple. Écoutons la suite des événements que notre lectrice va nous lire dans l'Exode, chapitre 32, les versets 15 à 35.
Moïse s'en retourna et redescendit de la montagne, tenant en main les 2 tablettes de l'acte de l'Alliance. Elles étaient gravées des 2 côtés sur leurs 2 faces. Ces tablettes étaient l'œuvre de Dieu, et l'Écriture était celle de Dieu gravée sur ces tables. Quand Josué entendit les clameurs poussées par le peuple, il dit à Moïse : « Écoute, il y a un bruit de guerre dans le camp !»« Non !» répondit Moïse, « ce ne sont ni des cris de victoire, ni des lamentations de défaite. C'est un bruit de chanson que j'entends !» Quand il fut près du camp, qu'il aperçut le veau et vit les chœurs de danse, il entra dans une grande colère. Il lança les tablettes qu'il tenait en main et les mit en pièces au pied de la montagne. Il saisit le veau que le peuple avait fabriqué, le jeta au feu et le réduisit en poussière qu'il éparpilla à la surface de l'eau. Puis il fit boire cette eau aux Israélites. Ensuite, il demanda à Aaron : « Que t'a donc fait ce peuple pour que tu l'entraînes à se rendre coupable d'un si grand péché ?» Aaron répondit : « Que mon Seigneur ne se fâche pas. Tu sais toi-même que ce peuple est porté à faire le mal. Ils m'ont dit : fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Je leur ai donc répondu : que ceux qui ont de l'or s'en dessaisissent. Ils m'en ont remis, je l'ai fait fondre au feu, et voilà le veau qui en est sorti. » Moïse vit que le peuple était déchaîné. Aaron l'avait laissé faire, de sorte qu'il s'exposait au mépris de ses ennemis. Alors il se posta à l'entrée du camp et s'écria : que tous ceux qui sont pour l'Éternel viennent vers moi ! Tous les membres de la tribu de Lévi se rallièrent à lui. Il leur dit : voici ce qu'ordonne l'Éternel, le Dieu d'Israël : que chacun de vous mette son épée au côté. Parcourez tout le camp, allez d'une tente à l'autre, que chacun tue au besoin son frère, son ami, son proche. Les Lévites obéirent à Moïse, de sorte que ce jour-là, environ 3000 hommes du peuple perdirent la vie. Moïse dit aux Lévites : en combattant chacun même contre son fils et son frère, vous vous êtes mis aujourd'hui au service de l'Éternel, et il vous accorde aujourd'hui sa bénédiction. Le lendemain, Moïse dit au peuple : vous avez commis un très grand péché. Maintenant, je vais remonter auprès de l'Éternel. Peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché. Moïse retourna donc auprès de l'Éternel et dit : hélas, ce peuple s'est rendu coupable d'un très grand péché. Il s'est fait un dieu d'or. Mais maintenant, veuille pardonner ce péché. Sinon, efface-moi du livre que tu as écrit. » L'Éternel répondit à Moïse, « J'effacerai de mon livre celui qui a péché contre moi. Maintenant va, conduis le peuple là où je t'ai dit. Mon ange marchera devant toi, mais au jour où j'interviendrai, je les châtierai de leur péché. » L'Éternel châtia le peuple à cause du veau d'or qu'il avait fait fabriquer par Aaron.
Merci. Romuald, la dernière fois, nous avons appris que Moïse a prié en faveur du peuple, afin que Dieu lui accorde sa miséricorde. Et pourtant, dans le récit que nous venons d'écouter, on dirait que Moïse, à son retour, exprime sa colère. N'y a-t-il pas là une contradiction?
Non, je ne le pense pas. Il faut dire que Moïse a pris le peuple en flagrant délit. Alors qu'il arrive dans le camp, il trouve le veau d'or. Et le peuple est en train de se livrer à toutes sortes de débauches. Dans un tel contexte, même si l'on est une personne miséricordieuse, la colère est justifiée, comme le châtiment. Le peuple a commis de très graves fautes, l'idolâtrie et l'immoralité. Moïse ne pouvait pas fermer les yeux et ne rien dire, d'autant plus que les faits se déroulaient devant lui. Sa colère reflète la gravité de la situation, ainsi que l'horreur des péchés commis.
Et qu'en est-il pour nous? Est-il parfois approprié ou nécessaire d'exprimer sa colère?
Oui, cela peut l'être. Toutefois, il faut faire très attention. La colère est une force dont on peut facilement perdre la maîtrise. Il est facile de se mettre en colère pour de mauvaises raisons. Il est facile d'exprimer de la colère de façon très démesurée et destructrice. Il est facile, lorsqu'on est en colère, d'oublier la miséricorde. Toutefois, confronté à des injustices graves, il est légitime d'exprimer sa colère de façon mesurée, pour réveiller les gens, pour les aider à prendre conscience de la gravité de leurs gestes et les inciter à faire une démarche de repentance.
Merci Romuald pour ces remarques pertinentes. Je note tout de même que Moïse a envoyé des hommes fidèles pour infliger un châtiment au peuple. Et ces hommes ont tué 3000 personnes. Cela peut choquer, d'autant plus que nous savons que Moïse a prié par la suite pour obtenir la miséricorde de Dieu.
Oui, c'est une question pertinente et importante. Et j'ai deux remarques à faire. D'abord, le châtiment infligé est très réduit par rapport à ce que Dieu avait prévu de faire. Vous en souvenez-vous? Dieu avait envisagé d'anéantir le peuple dans sa totalité et de tout recommencer avec Moïse et sa famille. Le fait que Dieu permette à la plupart de ces gens de vivre représente donc un immense geste de miséricorde. Aussi tragique que puisse paraître la mort de ces 3000 personnes, il ne faut pas oublier la gravité de leurs péchés. La Bible nous enseigne, dès les premières lignes jusqu'aux dernières, que le péché conduit à la mort. Cet incident est un rappel de cette vérité. Il nous enseigne aussi que, même là où Dieu fait grâce et miséricorde, la désobéissance a des conséquences douloureuses qui reflètent la gravité des fautes commises. Ce châtiment est comme un avertissement à tout le peuple. Même si le Dieu miséricordieux pardonne, il est nécessaire de corriger le peuple, dans l'espoir que cette correction l'aide à apprendre l'obéissance. Ceci est vrai pour le croyant aujourd'hui. Même si Dieu pardonne nos fautes au nom de Jésus, il peut nous corriger et permettre que nous subissions certaines conséquences de notre désobéissance. Écoutons à ce sujet ce qu'écrit l'auteur de la lettre aux Hébreux au chapitre 12, les versets 5 à 11.
Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur, et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez vos souffrances. Elles servent à vous corriger. C'est un fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si vous êtes dispensé de la correction qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes, et non des fils. D'ailleurs, nous avions nos parents terrestres pour nous corriger, et nous les respections. N'allons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père Céleste pour avoir la vie? Nos parents nous corrigeaient pour un temps limité, selon leurs idées. Mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige, afin de nous faire participer à sa sainteté. Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont ainsi été formés, une vie juste, vécue dans la paix.
Merci. Ce sont des paroles très riches. Même si Dieu choisit de nous corriger, il ne faut pas en déduire qu'il ne nous aime plus. Au contraire, il nous aime et toute correction contribue à la croissance spirituelle du croyant. Mais Romuald, je voudrais, avant de terminer notre émission, parler d'Aaron, car il a une très grande part de responsabilité dans cette affaire.
Oui, il est évident qu'Aaron n'était pas du tout à la hauteur de son appel. Parce qu'il était prêtre, le peuple dans sa détresse s'est tourné vers lui. Il est vrai que le peuple l'a soumis à une pression énorme. Toutefois, au lieu de céder à ses demandes idolâtres, Aaron aurait dû rappeler à ses gens les commandements de Dieu, sa bonté et tous les prodiges merveilleux qu'il avait accomplis pour eux. Aaron était un homme faible. Au lieu de réorienter les regards du peuple vers leur Dieu, puissant et fidèle, il a acquiescé à sa demande et il a lui-même participé à l'idolâtrie. Ensuite, lorsque Moïse le reprend à ce sujet, il cherche à mettre la faute sur le peuple. Il raconte des mensonges farfelus au sujet du veau d'or. Il est tellement faible qu'il n'arrive même pas à assumer sa propre faute. Je m'adresse donc à tout homme responsable d'église, pasteur, prêtre, ancien ou autre. Parfois, des croyants atteints d'angoisse désirent retourner aux anciens rites et revivre les traditions. Ils aspirent à replonger dans l'idolâtrie, à la divination et à la sorcellerie. Il n'est pas facile de résister seul à cette pression, mais votre vocation, en tant que responsable d'église, est de ramener ces personnes sur le bon chemin et de ne pas les suivre sur le mauvais. Il en est de même pour celles et ceux qui désirent discréditer l'enseignement biblique au sujet du mariage et de la sexualité pour suivre le monde dans son immoralité. Une fois de plus, le rôle des enseignants est de réorienter les gens vers la vérité quand cela est nécessaire et non pas de leur donner raison lorsqu'ils ont tort.
Merci Romuald pour toutes ces leçons importantes. Vers la fin du texte lu, nous notons que Moïse va remonter sur le mont Sinaï pour rencontrer Dieu de nouveau. Nous découvrirons la prochaine fois en compagnie de Romuald ce qui s'y passera.
Oui, c'est bien cela. En attendant, je dis au revoir à tous.
Nous remercions Romuald pour sa participation enrichissante à nos émissions. Nous espérons, chers amis, vous retrouver bientôt. En attendant, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.